rock et classique, dans la France du XVIIe siècle, Olivier Lestis et Philippe Frétinier.
Bonjour, vous êtes sur Radio Grand Ciel, l'émission Baroque et Classique, 9e émission Baroque et Classique, la France au XVIIe siècle. Nous avons la dernière fois abordé avec vous, Philippe Frétinier, notre invité permanent pour toute cette série, la question de l'architecture. Nous avons commencé à l'aborder et notamment vous nous parliez du moment maniériste qui préfigure ce qui va se passer après et qui introduit toute la période dite baroque. Et je rappelle que c'est une notion que vous réfutez, ou dont vous réfutez la pertinence, en tout cas pour
absolument,
décrire l'architecture.
Absolument, ouais. ça ne permet pas de penser l'architecture. Ouais. Donc, il faut parler, pour ce qui concerne la France, qui est quand même notre sujet, même s'il faut faire beaucoup de références à Rome, il faut dire qu'il y a un moment privilégié de l'architecture entre 1500 et 1560, avec des gens comme Lescaut, Philibert Delorme, qui vont d'ailleurs faire le voyage d'Italie. Alors je cherche le nom d'un troisième architecte important qui a été aussi à Rome, mais je ne le retrouve pas, peu importe. Enfin, beaucoup vont en Italie. Certains nombre d'écrivains comme Ronsard vont aussi y aller. Absolument. Du Bellay, dont l'oncle est cardinal. Bon. Et ce qui est particulier à la Renaissance, mais pas seulement, c'est vrai pour beaucoup de courants dans l'histoire de l'art, tant et si bien que ce concept-là même est un sens, c'est que finalement, il n'y a pas une Renaissance, mais il y a des Renaissances, parce que chaque ère géographique va avoir sa Renaissance, elle va s'emparer de ce qui se passe en Italie, se l'approprier et en faire un langage particulier. Alors ça, c'est déjà la première chose qu'il faut dire. Et d'autant plus, d'ailleurs, je pense à Ronsard dans la Franciade, qui se plaint des Français, puisque là, on est déjà à l'époque de la langue vernaculaire, hein, donc il se plaint de ces Français qui regardent à l'extérieur. C'est quand même assez drôle, puisque lui-même est allé à Rome. Hein. Mais donc, il y a cette idée de s'approprier. On ne peut pas passer outre le modèle, parce que c'est vraiment une source d'inspiration. C'est lui qui relance le retour à l'antique. Puis en même temps, on veut quelque chose qui soit bien à nous. Et je crois déjà avoir mentionné que Philibert Delorme va créer un ordre français, une colonne à Gaines. Enfin bon, on va passer les détails. Ce qui est intéressant...
Donc je rappelle juste un ordre français, effectivement. Donc là aussi, des canons, des proportions voilà. Architecturales.
Hein. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que fin 17e, dans le dernier tiers du 17e, Colbert, au moment de la création de l'Académie d'architecture, vers 1671, enfin à un an près, Colbert lance un concours pour un ordre français. C'est-à-dire que c'est permanent. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours ce mouvement d'attraction-répulsion, on s'approprie, puis en même temps, on veut que ça soit notre chose à nous. Et donc, c'est un concours important, puisque on estime, les historiens qui en travaillent la question, estiment qu'il y a eu à peu près 1000 réponses.
Ah, c'est énorme. Hein? Y avait-il 1000 architectes?
Pas forcément que des architectes, mais oui. Donc il y a eu entre autres, alors celle qu'on connaît parce qu'on a des exemples gravés, il y a la proposition de Claude Perrault, le frère de Charles, oui. Celui qui va être associé peu ou prou, là c'est en débat, à la fameuse colonnade du Louvre. Et puis la proposition de Charles Lebrun, qu'est ce qu'on appelle non seulement un peintre, mais un ornemaniste. C'est-à-dire que c'est lui qui dessine tous les éléments décoratifs, le vocabulaire. Bon, il n'est pas le seul. Il y a d'autres ornemanistes après, à l'époque de Lebrun, comme les familles Audran, Aubérin. Bon. Mais c'est vraiment quelqu'un de toute première importance. Et il va dessiner un ordre français qui va d'ailleurs, d'une certaine façon, être utilisé sur les pilastres de la Galerie des Glaces à Versailles. Hein. Donc, à plus d'un siècle d'intervalle, il y a toujours cette idée d'un ordre français, le sixième ordre. Hein. Donc, c'est des choses qu'il faut bien avoir en tête pour expliquer aussi ce qui se passe en France. L'autre chose qui est très importante, évidemment, donc je dis 1560 parce que 1560, c'est le déclenchement des guerres de religion. Et là, ça va vraiment figer l'art de bâtir pour un moment. La deuxième chose très importante pour l'histoire de l'architecture, pas seulement, mais notamment aussi en architecture, c'est la contre-réforme.
Donc là vous abordez à la fois un sujet qui est l'influence de l'Église, oui, mais dans une dimension très politique, finalement.
Les conséquences du Concile de Trente vont avoir un rôle dans l'histoire des arts, notamment la peinture sur la question des images et en architecture. Alors, les cardinaux, ils définissent pas à stricto sensu des prescriptions tout à fait précises, ils en seraient bien incapables, mais il y a des orientations. Par exemple, sur les images, on doit se garder de l'invention, ça doit être soumis au contrôle de l'évêque. Bon. Et en architecture, il y a des préoccupations liturgiques et surtout pastorales, l'importance de la prédication. Parce que la question des images, c'est évidemment réaffirmer l'importance de l'image par rapport aux réformés qui, évidemment, eux, par contre, évacuent la question de l'image.
Oui, réfutent le fait qu'on puisse représenter.
Voilà. Bon. Donc, l'importance de la prédication, d'où l'importance d'ailleurs de nouveaux ordres comme les jésuites, les oratoriens, les théatins, qui vont jouer un rôle dans l'architecture, notamment les jésuites et les théatins. Et donc, on prescrit que l'édifice doit être adapté à la prédication, donc on va privilégier la nef unique, on va quasiment supprimer les collatéraux, on va mettre des chapelles latérales, mais toutes petites. Il y a un chœur très peu important. Pourquoi un chœur très peu important? Parce que ces ordres-là n'ont pas d'office de chœur, donc on n'a pas vraiment besoin d'un chœur important.
Peut-être que vous pouvez juste préciser ce qu'est un office de chœur. Pas du tout évident que
dans le sein. C'est une partie dans les ordres monastiques, dans les ordres religieux. Il y a évidemment la vie de chacun des membres de la communauté. La communauté se retrouve pour célébrer les offices dans le chœur. Bon, dans les monastères, par exemple, les moments de prière commun à travers des offices tout au long de la journée, vêpres, complies, matines, plus la messe.
Ouais. Ce qui supposait donc des chœurs suffisamment importants pour accueillir toute la communauté concernée.
Voilà, alors que les ordres prêcheurs du XVIe siècle, bon, il y a la prédication vis-à-vis des fidèles dans la nef, et puis la prédication à l'extérieur, à travers toutes sortes de choses, y compris le théâtre. Je sais que vous étiez surpris quand je parlais de la littérature espagnole et que j'ai parlé des jésuites, mais d'abord, il y a beaucoup de jésuites qui ont écrit. Les jésuites ont souvent pris des libertés avec Rome. Bon, le dernier exemple en date, c'était Hilaire de Chardin, qui a même été mis à l'index, il ne faut jamais l'oublier. Je précise aussi qu'un certain Molière, vous savez, Molière, il a été formé chez les jésuites.
Il n'était pas jésuite lui-même, quand même.
Donc,
là, ça aurait été très particulier.
Mais c'est quand même vraiment la matrice.
Oui, bien sûr.
Donc, ça va avoir un énorme impact pour l'architecture religieuse parce que ça détermine quand même des choses structurantes pour le plan de l'édifice. Alors évidemment, le premier modèle auquel on pense, c'est l'église de Jésus à Rome, sur un plan de Vignol, qui est l'un des architectes aussi qui revendique clairement le retour aux sources de l'architecture antique. La façade a été dessinée par un certain Giacomo della Porta, mais peu importe, parce que finalement, le dessin de della Porta est très proche du dessin de Vignol. Et ça va vraiment être le modèle de l'église de la contre-réforme à cause de ce que je viens de dire. Et comme en plus il se trouve que c'est une église jésuite et que les jésuites se dispersent à travers l'Europe, se disséminent à travers l'Europe, évidemment ils emportent avec eux le modèle de l'église. Mais il faudrait pas parler d'art jésuite, d'abord parce que au départ les jésuites veulent quelque chose de très sobre et de très simple, contrairement à l'image qu'on a. Ça se complique parce qu'ils ont besoin d'un mécène pour construire l'église de Jésus et donc ils vont faire appel, c'est le cardinal Farnèse qui lui va vouloir évidemment un peu plus de décor. Et il faut quand même savoir que la décoration intérieure qu'on voit aujourd'hui à l'église de Jésus, en gros, elle a été peinte presque un siècle après. C'est-à-dire que pendant un siècle, l'église de Jésus n'est pas peinte à l'intérieur. Donc c'est vraiment la sobriété. D'ailleurs, on voit bien la façade est très sobre. Mais comme rien n'est simple en histoire, pas même en histoire de l'art, il ne faut pas s'imaginer que c'est un modèle qui est d'un seul coup créé ex nihilo. Parce qu'en fait, si on regarde bien les prémices, comme toujours, les sources du retour à l'antique, c'est Alberti, hein, notamment si on regarde l'église, la façade de l'église Santa Maria Novella à Florence, on voit très bien, ça c'est 1470 à peu près. Hein, donc,
oui, donc beaucoup plus ancien quand même.
Beaucoup plus ancien. Ben, vous regardez la façade de Santa Maria Novella, mis à part les jeux de marbre de couleur qu'on n'a plus dans les églises romaines, mais vous voyez bien que c'est exactement le plan de la façade dite jésuite, de l'église du Jésus, elle est déjà là. Hein. Mmh. Donc, alors c'est une église en général à deux étages, donc il y a... Il y a un premier niveau avec évidemment en général l'ordre dorique, quoique des fois c'est l'ordre ionique et donc le composite au-dessus, autrement c'est l'ordre dorique et l'ordre ionique au-dessus. L'utilisation des ordres, sur quand il y a différents étages dans une construction, on part toujours de l'ordre le plus simple en bas vers le plus complexe en haut. Alors il y a une exception, parce qu'il y a toujours des exceptions, c'est Santa Maria della Salute à Venise, je ferme la parenthèse, on n'a pas le temps d'en parler.
Donc, non, mais les gens qui auront le temps d'aller voir...
Voilà, donc Longhena a inversé l'usage des ordres. Bon, donc voilà, donc ça, la vraie source, c'est Alberti qui écrit un traité, parce qu'on est dans une époque où les architectes qui deviennent justement des humanistes, écrivent beaucoup des traités ou font des traductions. J'ai parlé tout à l'heure de Palladio, mais il faudrait que j'ajoute Serlio, qui joue vraiment un rôle moteur dans le développement de l'architecture Renaissance en France, parce qu'il écrit 4 livres d'architecture, où évidemment dont le premier livre est essentiellement consacré aux ordres. Et ces livres vont être très vite traduits, voire traduits plusieurs fois par différents. Une des traductions qui fera référence, c'est la traduction de Fréard de Chambray vers 1650.
Donc, ce qui est très important de comprendre tout ce que vous dites, c'est que les architectes en Europe entière échangent. Ouais. Échangent énormément. Vous le disiez déjà lors de la précédente émission, grâce à l'imprimerie. Mmh. Mais là, c'est particulièrement vrai, d'autant que finalement, c'est une communauté relativement peu nombreuse par rapport à beaucoup d'autres. On va faire juste une petite pause et on va écouter Monteverdi, un madrigal chanté par l'immense René Jacob. Après cette petite pause musicale, vous nous parliez en architecture du rôle très très important qu'ont eu les jésuites.
Oui, puisque donc ce sont les initiateurs du projet de l'église de Jésus qui va vraiment, et si on regarde bien toutes les églises romaines qui vont être l'inspiration des églises parisiennes, toutes vont reprendre, alors décliner évidemment, le modèle de l'église du Jésus. Ça, c'est vraiment très important et ça va conditionner l'architecture religieuse au-delà de l'Italie.
Mais... d'une certaine façon, c'est encore aujourd'hui ce qu'on imagine. Si on nous demandait de tracer comme ça le plan d'une église sur une feuille blanche, c'est sans doute ce plan-là qui sortirait. Ouais. Nous est tellement familier.
Voilà. Alors, comme rien n'est simple en architecture, il faut quand même dire qu'en France, il y a une persistance de l'architecture gothique jusqu'à quasiment la Révolution. Donc, c'est un peu plus compliqué. Il y a des fois même au niveau des plans. Les églises paroissiales parisiennes, par exemple, sont sur des plans gothiques, en tout cas le plan au sol. Donc, la période maniériste étant passée, il y a un peu des difficultés parce que Henri IV, lui bénéficie de la fin des guerres de religion, qui n'est pas tout à fait la fin, mais enfin, en gros, oui. 1590, en gros, c'est la fin des guerres de religion, même s'il y a d'autres épisodes avec Richelieu. Donc, ça va être un roi bâtisseur, je crois que je l'ai déjà dit. Et après Henri IV, il faudra attendre Louis XIV pour qu'il y ait un roi bâtisseur.
Non, mais lui, pour le coup, il a été vraiment très bâtisseur.
Parce que il y a vraiment, on rentre, je crois de l'avoir expliqué aussi dans le panorama du XVIIe, dans une époque très chaotique, aussi bien socialement, avec les épidémies, économiquement, puis il y a...
puis les guerres.
Les guerres, donc la France qui rentre avec Richelieu, de mémoire, je crois que c'est 1635, dans la guerre de 30 ans, et puis après ça n'en finit plus. Alors ce qui est nouveau, c'est que la Fronde, par exemple, est une période où les officiers, c'est-à-dire ceux qui occupent des offices, des charges, qui sont de plus en plus nombreux parce que c'est un moyen pour le pouvoir de se faire de l'argent en vendant des offices, qu'il ne peut plus racheter après parce que ça représente des sommes colossales. Tous ces gens-là qui, en fait, perçoivent par exemple l'impôt, s'enrichissent énormément. Pour donner une idée, dans ces années-là, on estime que l'impôt royal représente à peu près 80 millions de livres, et donc perçu par ces officiers... ben, il n'en rentre que 25 dans les caisses de l'État. C'est-à-dire que
les intermédiaires sont servis.
Voilà. Alors, ils amassent des fortunes considérables. Et puis, vous savez, alors, c'est exactement comme aujourd'hui. Et dans les périodes de crise, les riches deviennent de plus en plus riches. Et les pauvres de plus en plus pauvres. Donc, il y a de l'argent. Mais, contrairement, par exemple, à ce qui s'est passé avec les Médicis à Florence, cet argent, c'est un argent de spéculation, de spoliation, mais c'est pas une richesse économique qui est vraiment créée. Néanmoins, il va y avoir une quantité de financiers et donc d'officiers détenant des charges disposant de sommes d'argent colossales, et pour le blanchir, le meilleur moyen, c'est de la pierre.
Eux diraient l'investir, sans doute.
On estime au XVIIe que les financiers officiers détenaient la moitié des immeubles de Paris, donc le reste étant plus ou moins détenu par le clergé. Et donc ils vont, je vais très vite là malheureusement, mais j'aurais voulu développer davantage sur l'architecture religieuse, mais donc ils vont se faire construire des hôtels, ça c'est l'architecture civile, où la France va vraiment développer un langage très particulier qui n'a pas grand-chose à voir avec le baroque là non plus, parce que c'est la rencontre entre les influences italiennes, par exemple le premier palais vraiment du XVIIe, c'est le Luxembourg par Salomon de Brosse à la demande de Marie de Médicis, qui demande au fond à Salomon de Brosse de faire un palais italien, s'inspirant du palais Pitti où elle a passé son enfance à Florence. Alors le plus drôle, c'est que, par exemple, Perrault va dire à la fin du XVIIe que c'est le bâtiment le plus extraordinaire, le plus français, lui qui est tenant vraiment d'une architecture française, classique. Et il se trouve que ce bâtiment, qu'il érige comme un modèle, prend sa source dans l'architecture italienne. Rien n'est simple.
Non, c'est curieux.
Donc c'est la rencontre entre des conditions financières particulières et puis des architectes de génie. Le premier architecte important après Salomon de Brosse, c'est François Mansart, qui est à la fois le produit évidemment de tous les courants qui traversent son époque, et puis en même temps, je dirais, le produit lui-même, son génie propre. Donc il y a deux... Alors malheureusement, la France aime beaucoup démolir son patrimoine, comme si les révolutions rendaient les gens plus riches après en ayant démoli tout. Enfin bref. Et donc, les deux des réalisations majeures de Mansart, parce que beaucoup de choses ont été détruites malheureusement, c'est le château de Blois, l'aile au fond de la cour, l'aile qu'on appelle de Gaston d'Orléans, parce que c'est Gaston d'Orléans qui l'a fait
bien construire. Commandité, oui.
Ça n'a pas été terminé, mais de l'extérieur, on ne voit pas que ce n'est pas terminé. Parce que quand Louis XIII s'est décidé enfin à avoir un fils, Gaston d'Orléans n'était plus l'héritier du trône, donc il n'avait plus les mêmes moyens. Mmh. Donc ça n'a pas été terminé. Et puis le château de Maison, Maison Lafitte. Hein. Et ce que Mansart va apporter de propre dans son génie, c'est ce qu'on appelle l'organisation pyramidante des façades, c'est-à-dire vraiment ces massifs qui petit à petit s'élèvent sur trois niveaux et qui se terminent par un fronton avec deux avant-corps. C'est toujours le plan du bâtiment, le principe des bâtiments en U, la même structure que les hôtels particuliers à Paris. Ces avant-corps au rez-de-chaussée vont être reliés au bâtiment principal par deux arcs concaves qui vont faire liaison entre les deux bras. Et donc, une distribution des avant-corps et du corps central dans l'espace. Vraiment un jeu des volumes dans l'espace. Ça, c'est vraiment je simplifie beaucoup, malheureusement, le génie de Mansart. Et puis, alors Mansart, lui, il n'est jamais allé en Italie, mais on sait qu'il avait, on connaît sa bibliothèque, il avait une bibliothèque où il avait à peu près tout ce qui comptait comme traité, parce que les architectes de la Renaissance et même du début du XVIIe vont faire beaucoup, soit des traités, soit des traductions de traités. Et puis il y a le rôle aussi, alors il faut quand même en parler, Richelieu ne s'intéresse pas tant que ça à l'architecture. Donc il délègue ça au surintendant des bâtiments qui s'appelle Sublet-Desnoyers. Et ça va jouer un rôle très important parce que Sublet-Desnoyers, lui, ça l'intéresse les bâtiments. Il a dans son entourage, ce sont des cousins, les frères Fréard. Fréard de Chambray, Fréard de Chanteloup. Alors Fréard de Chanteloup, il est connu parce qu'il a écrit le journal de voyage du cavalier Bernin en France. Et oui. Sublet-Desnoyers va envoyer les frères Fréard en Italie, d'abord pour rapporter des antiques, faire revenir Poussin à Paris. Ça va durer seulement 2 ans. Après, Poussin retournera à Rome. Et Fréard de Chambray et Fréard de Chanteloup vont s'intituler les intelligents et ils vont être vraiment les tenants, ça c'est vraiment la réaction au maniérisme justement, d'une architecture classique, de sobriété, en repoussant le plus possible l'ornementation.
Là ce sont des commanditaires publics.
Les frères Fréard, on ne peut pas dire que ce soit vraiment des commanditaires. Il n'y a pas vraiment de commande publique, justement. C'est plutôt dans encore une fois, dans les mains des financiers.
Officiers.
Puisque la dernière commande publique, c'est vraiment Henri IV, hein, je l'ai mentionné, avec la place des Vosges, la place Dauphine. Pour un renouveau de la commande publique, encore une fois, il faut attendre vraiment Louis XIV. Mais surtout, c'est Sublet-Desnoyers à la charge des bâtiments, donc on transforme certains bâtiments, on en construit d'autres, et puis surtout les frères de Chambray vont vraiment être des théoriciens, ce qu'on appelle aujourd'hui des théoriciens de l'art. Mmh. Hein. Ils ne sont pas architectes, parce qu'on est à une époque où il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'architecture qui ne sont pas forcément architectes. Hein. Les architectes eux-mêmes certains ont été théoriciens, alors au cours du 7e, après les architectes sont moins des théoriciens et plus des praticiens. Et l'architecte au XVIIe veut vraiment devenir ce personnage, notamment avec la mathématisation. Je pense à Desargues, qui était à la fois mathématicien et architecte. On va trouver ça chez le Guarini après aussi, qui est donc un architecte italien jésuite qui vient de Turin, mais qui va être appelé à Paris comme quoi rien n'est simple, parce que Guarini, pour reprendre les termes que j'ai employés tout à l'heure, ça serait un borominien, c'est-à-dire il y a un épanchement de l'ornementation. Bon, à Paris, en pleine époque classique, entre guillemets, on fait venir le Guarini pour construire Sainte-Anne-la-Royale, à peu près peu ou prou à l'emplacement en face du Louvre, hein, disons, à peu près, sur la Seine. Ça va être malheureusement démoli. Et pourtant, les Parisiens sont réticents, hein, à l'initiative des frères de Chambray. Là, parmi les grandes personnalités artistiques qui vont vraiment jouer un rôle de premier plan, il y a Le Mercier, qui est le premier architecte du roi, qui est donc l'architecte notamment de la Sorbonne. C'est lui qui va réaliser le grand dessin d'Henri IV pour le Louvre, qui était de doubler la cour du Louvre, ce qu'on appelle aujourd'hui la cour carrée.
La cour carrée, bien sûr.
Dont juste une partie avait été construite par Lescaut, le grand architecte de la Renaissance que j'ai mentionné. Alors on va faire quelque chose, donc on va multiplier la surface de cette cour par 4. Donc vers la Seine, quand on est dans la cour carrée, qu'on tourne le dos à la colonnade du Louvre, la partie gauche, ça c'est vraiment la partie de Lescaut, Le Mercier va construire un pavillon central. On va faire un pastiche de l'aile de Lescaut de l'autre côté. Et donc ça, c'est vraiment un architecte, moins inventif peut-être que Mansart. Tout à l'heure, j'ai parlé du plan centré et en croix grecque ou en croix latine. La chapelle de la Sorbonne est vraiment un hybride puisqu'il y a un portique sur le côté, au niveau du transept, dans la cour de la Sorbonne, on peut tous voir aujourd'hui, et qui est dans l'axe de l'hôtel. C'est-à-dire qu'il y a une des façades qui est vraiment comme si l'église était sur un plan centré. Et puis, il y a la façade sur la cour de la Sorbonne, à deux étages, développement de type Jésus, donc au bout du bras, la croix latine.
Alors, évidemment, on en arrive à la fin de cette émission, il faut forcément parler du grand roi bâtisseur, vous le disiez tout à l'heure, Louis XIV et Versailles. Donc,
Oui, d'autant plus que ça va me permettre de parler de l'autre grand architecte de l'époque qui a joué un rôle majeur. Tout le monde, en entendant son nom, va comprendre. C'est de Levaux, donc l'auteur du château de Vaux-le-Vicomte, à la demande de Nicolas Fouquet. Et Louis XIV, bien que furieux, va tout de suite repérer que les trois artistes de Vaux, le Vaux, le Nôtre, le Brun, les trois Leux, il les prend avec lui à Versailles. Et le Vaux est le dessinateur de la façade de Versailles. Alors, pas le Versailles qu'on connaît, celle qu'on le voit aujourd'hui. Je parle de la façade sur jardin, puisque sur la cour, Louis XIV a toujours voulu garder le château de son père, le château de Louis XIII. Il y avait donc, c'était toujours un bâtiment en U, il y avait deux pavillons qui sont toujours là, et puis une terrasse entre les deux qui correspond à l'emplacement de la Galerie des Glaces. Et donc, Mansart, Jules Hardouin, le neveu de l'autre, va être chargé par Louis XIV de faire disparaître cette terrasse venteuse. Et donc, on va construire la Galerie des Glaces en reprenant, en alignant la façade sur les deux façades existantes de Levaux. Et vous voyez comme quoi rien n'est simple, parce que on parle de francisé, mais si vous regardez bien la fameuse colonnade du Louvre où on a fait appel au Bernin, qu'on n'a pas retenu, plutôt à la suite d'une cabale qu'autre chose d'ailleurs, notamment de Perrault. Si vous regardez bien le dernier projet, le troisième projet du Bernin pour la colonnade du Louvre et que vous le comparez avec la façade de Levaux à Versailles, vous trouvez quand même qu'il y a un sacré air de famille.
Hein. Comme un plagiat.
Non, pas, je dirais pas un plagiat, mais vraiment une intuition commune au niveau des volumes, avec en plus bon, l'étage d'attique, qui est vraiment quelque chose d'important dans l'architecture française. Il faudrait parler du rôle des toits, j'en ai pas parlé à propos de Mansart, même si c'est plutôt le muet dans l'art de bien bâtir, mais les toits écrêtés, c'est-à-dire qu'on redresse la toiture dans un premier niveau, ce qui permet d'utiliser d'ailleurs les combles et puis de simplifier la charpente. Et ça permet aussi de prolonger l'élévation du bâtiment que parfois on orne d'une balustrade. C'est vraiment l'idée de l'attique qu'on va trouver pleinement développée à Versailles ou des jardins, vous ne voyez absolument pas les toits.
C'est clair, voilà. Tout à fait. C'est tout à fait remarquable dans ce château. Oui.
Voilà. Donc j'ai conscience d'avoir évidemment beaucoup, mais là, survolé en avion réaction l'histoire de l'architecture en France, parce que j'ai dit un mot sur des architectes qui mériteraient une émission à eux voilà. Seuls.
Chacun pourra approfondir, en tout cas, voilà, les bases données pour cette question de l'architecture, du baroque et du classique, et de l'inadaptation des termes. Merci beaucoup, Philippe Frétigny. On se retrouve à la prochaine émission pour parler peinture.
Tu non senti la mente, ma tu fuggi.